Et l'accessibilité, hein, c'est pour ça. Tout le monde.
Oui.
Hein, de rendre les lieux accessibles, là, même si toi, tu n'as pas d'incapacité, à un moment donné, ça devient un environnement plus accessible pour toi aussi.
Ce balado est présenté par la Société de services financiers Fonds FMOQ, qui vous rappelle que vivre en santé, ça commence maintenant.
Un autre bel épisode qui débute de Santé sans rendez-vous par la Faculté de médecine de l'Université Laval. Puis aujourd'hui, je pense que je vais découvrir énormément sur ce sujet-là que je ne croyais pas autant. Est-ce que polariser est le bon mot? Bref, vous allez le comprendre dans les prochaines minutes, puisque je m'entretiens sur l'accessibilité dans notre société avec d'abord François Routier, qui est professeur au département de réadaptation Université Laval, chercheur au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, le CIRIS du CIUS de la capitale nationale et responsable de l'équipe de recherche participation sociale et ville inclusive du CIRIS. François, bonjour!
Bonjour!
Bienvenue dans le balado.
Merci.
Et notre deuxième invité, il est directeur de la formation et de la défense de droit chez Kiroul, commissaire à la SCHL, donc la Société canadienne hypothèque et le logement, commissaire pour la commission consultative pour vivre ensemble à la Ville de Québec. Il est père de famille également, M. Simon April. Bonjour!
Bien le bonjour!
D'abord et avant tout, je veux connaître la raison pour laquelle vous avez choisi de vous orienter justement vers l'accessibilité pour le bien-être de notre auditoire et nous mettre en contexte.
C'est moi qui débute.
Vas-y.
Premièrement, je suis chercheur au CIRIS là, depuis une douzaine d'années. J'avais une recherche qui portait beaucoup sur des aspects cliniques d'utilisation de fauteuils roulants que j'ai transposé dans la ville. Et j'ai été rapidement confronté à ces aspects d'accessibilité des lieux physiques dans un premier temps. Et ça s'est élargi à d'autres aspects de l'accessibilité dont on pourra parler aujourd'hui, mm-hmm. là, mais qui n'est pas que de l'accessibilité de l'environnement bâti. Là. Il y a plein d'autres volets de l'aspect auxquels il faut s'intéresser.
Puis moi, je suis une personne handicapée de naissance, donc j'ai une maladie qui s'appelle l'ostéogenèse imparfaite. Donc, c'est une maladie des os de verre qu'on appelle. Puis, l'accessibilité, ça a toujours fait partie de ma vie. On n'appelait pas ça l'accessibilité quand j'étais jeune. On appelait ça « Je peux-tu y aller ou pas? »
Ah,
maintenant,
oui,
hein? On a mis un mot là-dessus, donc c'est ça. Puis, il y a beaucoup de places que je ne pouvais pas aller. Donc, ça a été un combat là, depuis ma tendre enfance que ma mère m'a montré à faire et que je poursuis maintenant, pas seulement pour moi, mais pour, je pourrais dire, mes collègues en fauteuil.
Oui.
Voilà.
Je veux savoir d'abord et avant tout, justement, c'est quoi de l'accessibilité dans son ensemble? Tu sais, moi, je pense, vite, demain, je me dis accessibilité pour les personnes peut-être à mobilité réduite, parce qu'on te voit, Simon, puis c'est ça, t'es en fauteuil roulant. Je pense à des rampes pour de l'accessibilité, mais je sais que ça va au-delà de ça. C'est quoi de l'accessibilité?
Lorsqu'on parle d'accessibilité, en fait, là, au Canada, il y a une loi sur l'accessibilité depuis 2019. On est un peu en retard par rapport à plein d'autres pays, là. Et par rapport à ce que l'ONU valorise là, en termes d'accessibilité, mais c'est de rendre notre pays égalitaire pour tout le monde. Donc, l'accès à l'environnement physique, aux services, c'est avoir les mêmes droits pour tout le monde. C'est ça, l'accessibilité.
Et puis, Simon, si c'est pas trop indiscret d'aller dans votre situation, vous disiez donc, c'est ça, que vous êtes à mobilité réduite depuis handicapé depuis votre naissance. Les enjeux que vous avez vécu depuis que vous êtes jeune, c'est quoi? Est-ce que vous êtes à l'aise d'aller là, de m'expliquer à travers les années ce que vous avez vécu de positif ou de négatif quant à l'accessibilité quand on est en fauteuil roulant?
Bien, l'accessibilité, c'est quand même général. Parce que, tu sais, on parle d'accessibilité, mettons, monétaire. Ouais. Ça peut être d'accessibilité de beaucoup de choses. Puis, Bien, dans le fond, ça a toujours été un enjeu parce que, tu sais, l'activité, mettons, aux soins de santé, l'activité à beaucoup de choses. Puis, moi, ça a commencé, au début, je marchais. Mais à partir de l'âge de 5 ans, j'ai arrêté de pouvoir marcher. Donc, par la suite, la première étape que j'ai eue à vivre, c'est d'aller à l'école. C'est oui. la première chose. Puis, aller à l'école, moi, je viens de la région, je viens pas de Québec. Donc, je viens d'un petit village qui s'appelle Cabaneau. Il serait pas content que je dise petit village, mais bon. Puis, la première chose que ma mère m'a montrée, dans le fond, c'était pas de... Il n'y avait pas de transport adapté dans les années 80. Donc, ma mère s'est battue au début, sans que je le sache, pour que je puisse prendre l'autobus jaune, l'autobus...
Oui, scolaire.
Scolaire, normal. Ouais. Et je me plais à dire qu'elle a exigé que le lift qu'on appelle dans l'autobus soit en arrière, parce que les gens coulent, s'assoient en arrière.
Ça, c'est drôle.
Donc, une belle preuve d'intégration aux gens, aux jeunes. Puis... C'est aussi une attitude, dans le fond, parce que tu as l'accessibilité, mais il faut que tu te fasses accepter là-dedans. Puis, tu ne veux pas, tu vois, à la maternelle au début, bien, tous les amis, entre guillemets, ont les questions. C'est qui, lui? C'est quoi? Puis maintenant, aujourd'hui, dans ma vie, j'ai les mêmes questions parce que mon garçon, il est à la maternelle. Donc, j'ai les mêmes questions, mais adulte. Pourquoi qu'il est petit puis il a de la barbe? Donc, tu sais, c'est une accessibilité puis une approche aussi puis une acceptabilité oui. aussi. Mais l'accessibilité, parce que tu as l'accessibilité que tu peux aller à quelque part, puis est-ce que tu as les moyens d'aller à quelque part, puis la manière d'y aller aussi. Donc, c'est très complexe. Ce matin, on parlait justement avec une ville qui veut rendre leur commerce accessible. Je leur expliquais, oui, tu peux rendre le commerce accessible, mais il faut bien que tu te rendes au commerce. Donc, il faut bien cibler la manière de faire l'accessibilité. Donc, avoir un réseau de transport accessible, avoir des trottoirs accessibles, pouvoir rentrer dans un établissement accessible. Donc, c'est beaucoup ça. Mais une fois que tu es rentré dans le commerce, est-ce que tous les services sont accessibles aussi? Est-ce que le personnel est formé pour avoir une approche, mettons, être à l'aise avec une personne handicapée? Des fois, on a beaucoup de préjugés, on n'ose pas le dire, on n'ose pas... poser la question, puis ça dépend. Dans les personnes handicapées, il y a des gens qui veulent en parler, il y a des gens que ça leur dérange pas d'en parler, puis il y en a d'autres qui veulent pas en parler. Donc ça, c'est à plusieurs niveaux. Une personne qui est née avec un handicap versus une personne qui est devenue une personne handicapée suite à un accident ou une dégénérescence, c'est tout un monde, là, dans le fond, là. Là, arrêtez-moi de parler.
Hein. Ah non, moi, mais moi, je trouve ça intéressant. Mais je pense que ça met en contexte, tu sais, par l'histoire de François, pas François, par l'histoire de Simon, pardon, je pense qu'on peut aussi, tu sais, aborder tous ces sujets-là qui vont nous montrer jusqu'à quel point on offre des emplacements et des situations accessibles ou pas, tu sais. Fait que moi, je vous invite à continuer.
J'aimerais faire du pouce sur l'exemple de la maternelle que tu as donné. Pour montrer que ce n'est pas que l'environnement physique. Hein, il faut le moyen pour se rendre à l'école. Il faut que le personnel soit formé, soit prêt à donner des services adaptés. Bon, Simon, des incapacités physiques, mais on a des enfants qui ont l'autisme, qui ont une déficience intellectuelle, mais qui peuvent aller dans ces milieux régulier là, mais il faut que tout soit adapté à leur situation pour rendre le service accessible.
Puis l'adaptation, parce que là, on parle justement handicap visuel ou encore autiste, des fois, c'est moins visible qu'un fauteuil roulant, on s'entend. Ah oui. Puis je veux qu'on fasse la différence aussi entre un handicap visible et un handicap invisible.
Moi, je t'apporterais à faire aussi une différence entre l'accessibilité puis l'adaptation.
OK.
Parce que l'accessibilité, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, l'accessibilité, c'est pouvoir aller à quelque part, être inclus. Puis l'adaptation, c'est plutôt personnalisé. Okay. Donc, une table, exemple, qui est adaptée pour ma hauteur, n'est pas nécessairement une table adaptée pour une autre personne handicapée qui est plus grande.
OK.
Voilà la différence.
OK, très, très, très intéressant. D'accord. Donc, c'est ça. Handicap visible, handicap invisible. Quelle est la différence? C'est sûr que oui, là, y a le fait que ce soit visible ou pas, mais on va piger où, là, tu sais, ça part de où à où, là?
Ben, tout ce qui C'est sûr que les incapacités physiques sont plus visibles, mais je dis plus parce qu'il y en a qui ne le sont pas nécessairement. Hein, on inclut dans les déficiences physiques la vision, l'audition. Bon, la vision, ça peut être un handicap visible parce que les gens vont probablement...
Tu le vois.
Sans jeu de mots.
Nous autres, on le voit.
C'est ça, on le voit. Mais bon, une déficience auditive, pas nécessairement. Hein, l'autisme, déficience intellectuelle. Bon, quand les gens interagissent avec nous, on peut le comprendre, mais c'est pas nécessairement visible. Donc, quand je suis dans un commerce, il va y avoir des interactions différentes avec le personnel. En termes d'handicap invisible, là, aussi, les gens qui ont un AVC, souvent, vont avoir des séquelles au niveau du langage, tout ce qui est de la communication, qui n'est pas visible non plus. Donc, il y en a quand même beaucoup d'handicap invisibles avec lesquels les gens ne sont pas formés.
Quelqu'un qui fait des crises d'épilepsie.
Épilepsie aussi.
Tu ne peux pas le savoir. Là.
Non.
Donc, tu vas passer une entrevue avec un employeur. Tu le dis-tu si tu fais des crises d'épilepsie ou pas? C'est une bonne question. Hein?
Bien, c'est ça qui m'apporte à vous demander. Les personnes qui ont des handicaps invisibles, est-ce qu'elles se doivent de le dire? Tu sais, mettons, j'ai un handicap auditif. Bon, j'arrive dans un restaurant ou dans un magasin, peu importe, je veux magasiner, mais cette personne-là, est-ce que naturellement, pour un peu mettre en contexte, va le dire, écoute, j'ai un handicap auditif, ça se peut que je ne comprenne pas, peux-tu comme articuler, en tout cas, peu importe, là, tu sais, je ne sais pas c'est quoi tes techniques, slash dans un entretien d'embauche, avez-vous des anecdotes reliées à ça? Y a-t-il de la discrimination reliée à certains handicaps, que ce soit dans des milieux publics ou encore dans des milieux professionnels?
Bien, de la discrimination, c'est sûr qu'il y en a. Là. Simon pourra avoir peut-être des anecdotes plus précises que moi. Là. Mais on a des collègues au centre de recherche qui ont étudié l'embauche. Hein. Donc, ils envoyaient des CV, des faux CV, puis ils ont regardé... combien se sont fait rappeler. Oui. Donc, si tu indiques hein, que tu as un handicap quelconque, tu es beaucoup moins rappelé. C'est des niveaux de non-rappel équivalent à si tu déclares que tu es noir. C'est pas du racisme, là, mais il y a des préjugés.
Ben oui.
Bon. Et ça, même si tu indiques. Ben oui, je suis en fauteuil roulant, mais il y a des mesures. Le gouvernement paie pour telle chose pour aménager mon poste de travail. Ça demeure que tu es moins rappelé. Donc oui, il y a...
Puis tu sais, en même temps, tu dois de le dire. Tu te dois de le dire parce que, en tout cas, en fauteuil, si je dis pas que je suis une personne en fauteuil, puis j'arrive à l'entrevue, puis il y a 8 marches, je peux y aller.
Je comprends.
Je me rendrai pas. Fait que la question, c'est, OK, je le dirai pas, mais là, j'arrive à l'entrevue puis je peux pas y aller parce que ça peut arriver. Ou je le dis puis il me rappelle pas. Mais des fois, ben maintenant, c'est peut-être un peu moins... Ça dépend où tu postules aussi, là. Si je postule d'un dépanneur, ça se peut qu'il me rappelle pas.
Oui.
Mais si je postule au gouvernement, ben, ça, c'est un autre débat. Il y a des quotas. Donc, ça, c'est une autre affaire. Est-ce qu'on est pour les quotas? Moi, personnellement, quand je vais engager quelqu'un, je ne veux pas engager une personne handicapée, je vais engager quelqu'un.
Oui.
Fait que si la meilleure personne, c'est une personne handicapée, ben voilà. Mais là, c'est pas tout le monde qui pense comme moi non plus. Je pense qu'il y en a qui disent, oui, faut donner la chance, faut prouver aux employeurs qu'une personne handicapée peut faire autant le job qu'une personne pas d'handicap. Puis ça non plus, c'est pas toujours nécessairement vrai. Pas le fait de ne pas faire la job, mais tu sais, moi, j'ai une maladie des os, donc je peux être au travail puis pas prendre une journée de maladie de l'année. Mais si je tombe de ma chaise puis j'ai 4 fractures, ben là je suis pogné pour être sur le dos pendant 2 mois. Là. Fait que c'est quand même un risque aussi à prendre.
Il y a beaucoup d'éducation à faire auprès de la population, mais même auprès des personnes en situation d'handicap elles-mêmes. Là. faut les convaincre qu'il y a des possibilités pour oui. eux dans le travail, mais dans le sport, dans les activités de loisirs. Donc, c'est pas seulement auprès de la population. Puis un balado comme aujourd'hui, ben, ça contribue à ça. Là.
Puis, on l'espère. Je vous écoute parler, là, puis je me retiens pour pas être fâchée, on dirait. Là, je vous écoute. Puis,
on dit des énormités.
Non, mais non? En fait, je suis. On dirait que je suis surprise de voir à quel point il y a encore de la discrimination, ou en tout cas du. On considère fortement, comme vous parliez, tu sais, de la candidature d'un ou d'un autre parce qu'il est en fauteuil roulant ou parce qu'il a telle autre situation. On dirait que ça me fait capoter. C'est pour ça que je vous écoute parler puis je me retiens un peu parce qu'on dirait que ça vient me chercher. Je trouve ça un peu déplorable.
Je vais nommer une autre forme de discrimination. Oui. Puis là, c'est l'environnement, je pense, qui fait que la discrimination existe, là. Mm-hmm. Mais tu veux aller... tu es en fauteuil, tu veux aller sur la rue Saint-Joseph, tu veux aller sur la rue Cartier, ben, tu n'as pas le même accès à l'ensemble des commerces ouais. qui sont là, comme les autres, là. Ça naît de la discrimination.
Tout à fait.
Là, c'est pas les gens qui discriminent eux-mêmes, mais l'environnement physique, comme il est, ouais. fait que tu n'y as pas accès.
Comment on fait dans une ville comme Québec, justement, pour rendre les endroits, les milieux accessibles le plus possible?
Bien, au niveau du tourisme, c'est sûr que le Vieux-Québec, c'est un des plus beaux quartiers du Canada, mm-hmm. mais c'est aussi un des moins accessibles. Donc, puis on se cache souvent là, en arrière de tout ce qui est patrimonial, c'est une bonne raison. Par contre, je suis allé visiter le Colisée de Rome il y a quelques années, puis il y avait un ascenseur, il était full accessible. Okay. Donc, ça aussi, c'est patrimonial. Donc, on n'a pas la même définition des fois.
On n'est pas prêt à mettre les mêmes moyens.
C'est sûr.
C'est sûr que Québec, là, il y a... Juste l'hiver fait qu'il y a des contraintes, là. Si tu vas à Vancouver, les trottoirs, mm-hmm. si tu vas à Chicago, les trottoirs sont pas pareils. Ils sont plus...
Mais Vancouver, ils ont été sensibilisés parce qu'un de leurs maires est en fauteuil.
Oui.
OK.
Ça a changé tout. Fait que quand tu vas à Vancouver, les taxis réguliers pour le transport oui. adapté, si tu veux un taxi, ça prend 30 minutes, je pense, puis tout ton taxi adapté. Les trottoirs, c'est sûr qu'ils n'ont pas les hivers qu'on a, donc ça, c'est différent aussi. Mais je suis allé dernièrement, là, il y a un mois, puis je me posais pas la question si c'était accessible ou pas. J'y allais. Oui.
OK.
Fait que ça, c'est différent. Là.
OK. Ouais.
J'aimerais ajouter, je crois, puis tu confirmeras, là, que la ville de Québec fait quand même beaucoup d'efforts. Ouais. C'est une préoccupation. Il y a des gens au sein de l'organisation municipale qui sont dédiés à l'accessibilité sous différentes formes.
Ben, on a un élu responsable de l'accessibilité universelle qu'il n'y a pas ailleurs. Là. Fait que c'est déjà une belle preuve.
Donc, dans la ville de Québec,
ouais, il y a un élu qui est dédié à ça. Et dans l'opposition, il y a quelqu'un qui a ces préoccupations-là aussi. Mm. Notre équipe de recherche a une douzaine de partenaires, dont la ville de Québec. On a une personne dédiée
ouais.
avec qui on interagit, je dirais pas sur une base quotidienne, là, mais au moins toutes les semaines, on a des interactions avec cette personne-là. Et actuellement, on a des projets actif avec la Ville de Québec pour améliorer les choses. Une formation à l'ensemble des employés de la Ville sur c'est quoi l'accessibilité universelle et qu'est-ce que ça change ou ça devrait changer dans leur travail. On va débuter avec eux à l'automne un projet sur une mise à jour de leur guide d'accessibilité universelle qui existe depuis près de 20 ans.
2010,
là.
Je pense.
2010, okay. Ah, bon, donc plus 14 ans. Et là, ils ont c'était très environnement physique. Et bien là, il y aura des fiches sur d'autres aspects d'accessibilité. Donc, pour avoir des fiches sur comment recevoir un citoyen mm-hmm. quand je lui rends un service, quand il vient chercher un permis... etc. Donc, il y a une préoccupation.
Oui, puis est-ce que c'est récent ou ça fait longtemps qu'il y a des efforts comme ça? Okay.
Non, non. le guide là, date de 2010. Là. En 2010, on collaborait avec eux. Là.
Mais c'était beaucoup fauteuil roulant.
Oui.
OK.
C'était beaucoup fauteuil roulant, puis c'est ce qu'on regardait toujours avec l'accessibilité. Maintenant, tout ce qui est déficience visuelle, déficience auditive aussi, l'accompagnement. Puis maintenant, on parle de mobilité réduite. Fait que donc, on n'inclut pas nécessairement juste les personnes en fauteuil.
Non.
Donc, ça peut être une femme avec... Mais un parent avec une poussette, oui. Ça peut être une personne âgée. Même, on faisait la blague, on disait quelqu'un qui est en état d'ébriété est en mobilité réduite.
Ben, par rapport à son...
On essaie de pas trop les aider.
Mais non, ça, c'est une autre affaire.
Et puis, dites-moi, est-ce que les gens qui ont un handicap invisible, est-ce que c'est au quotidien, puis je veux rien enlever à ceux qui ont un handicap visible, mais est-ce que c'est plus... compliqué ou plus difficile pour eux de se faire valoir. Je ne sais pas si c'est l'expression qui est bonne.
Je pense que c'est moins bien ce que compris.
Oui, c'est ça.
Ah, bon, on a eu des publicités à la télé, il me semble, il y a quelques temps, où il y avait une personne, peut-être, je pense qu'elle était aphasique, qui voulait avoir des services à l'épicerie. Ben, c'est pas bien compris, effectivement.
Puis justement, c'est quoi la formation? Là, vous parliez de la formation à la Ville de Québec, justement, sur l'accessibilité. C'est quoi la formation qu'on peut offrir à ses employés si on est chef d'entreprise pour optimiser, justement, une meilleure accessibilité?
À la base, il faut savoir que... En tout cas, moi, la base que je prends, c'est le crédit d'impôt personnes handicapées au gouvernement fédéral. Donc, on avait travaillé avec des organismes et les gens du fédéral... pour déterminer qui avait le droit. Donc, ils ont calculé que ça prend 14... faut que tu aies besoin de 14 heures par semaine pour pallier ton handicap.
OK.
Donc, ça te prend 14 heures de plus pour t'habiller, manger, te déplacer, etc. Ça, ça compte. Donc, à partir de là, tu as un crédit d'impôt personne handicapée au fédéral. Donc, tu t'inclus comme une personne handicapée. Donc, on pourrait parler quelqu'un qui est diabétique.
Oui.
Donc, c'en est un handicap invisible. Donc, quelqu'un qui est, diabétique de type 1 est une personne handicapée au sens de la loi. Par contre, là, je veux dire, comment on dit ça, un employeur? Bien, c'est de la formation, dans le fond, à plusieurs niveaux. Oui. C'est soit le personnel d'accueil, soit les gestionnaires, soit... Donc, c'est tout l'échelon d'une entreprise qu'il faut changer la culture. Puis, à la base, faut la sensibiliser... Mais il faut démystifier tout ça.
Oui.
Parce que dans le fond, des fois, on a peur de déplaire, on a peur de ne pas dire le bon mot, on a peur de l'approche. Puis des fois, on devient trop familier. Donc, moi, je donnerais un exemple. Je ne suis pas grand, tu sais. Donc, les gens ne me voient pas, mais je ne suis pas grand. Puis quand on veut me parler, on me demande souvent, « Veux-tu que je me penche pour te parler? »
Oui.
Là, ça finirait que tout le monde se pencherait. Fait que j'aurais juste du monde à genoux autour de moi tout le temps. Fait que là, ça...
Qui aurait de l'air louche.
Ouais, c'est ça, tu sais. Je suis quand même pas un empereur partout, c'est juste ça. Dans ma maison, mais pas partout. Puis là, ben dans le fond, souvent, il y en a que... Oui, ils vont se pencher. Moi, j'ai rien contre ça non plus, là. Mais ils vont se pencher, puis ils vont se tenir après ma chaise. Ça, c'est une autre affaire, tu sais.
OK.
C'est comme il y a une petite coche.
Qui est entrée dans ta bulle.
Ouais, c'est comme si quelqu'un viendrait te parler puis te mettrait deux mains sur les épaules de même. Oui. C'est pas... tout le monde qui est à l'aise avec ça. Ben, si ma blonde me le fait, ça ne me dérange pas. Mais quelqu'un que je ne connais pas, puis des fois, ils se tiennent après la chaise pour pas... Bon, ça, c'est un autre... Fait que c'est comme ça un peu... c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est une bonne sensibilisation des fois à avoir. Puis on parle dans nos formations aussi des fois les chiens accompagnateurs.
Oui.
Pour les personnes aveugles, pour les personnes en fauteuil roulant aussi. Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on... Parce qu'on dit tout le temps, il ne faut pas toucher aux chiens... mais c'est quoi la manière de le reconnaître que c'est un chien d'assistance? Est-ce qu'il y a un harnais? Est-ce que c'est un chien officiel? Est-ce que je peux arriver à... Tu sais, c'est une bonne question. Moi, j'ai un trouble d'anxiété, puis c'est ma perruche sur mon épaule qui me permet de diminuer mon anxiété. Est-ce que j'ai le droit d'amener ma perruche partout? Tu sais, c'est des bonnes questions. Le chien d'assistance, je pense qu'on...
Il est accepté.
Il est accepté.
Oui, c'est comme... Même, oui.
Bon, c'est ça. Il y a des écoles... de chiens, c'est dans la loi, je crois, même, là, qui doit être accepté partout.
Oui.
Deux, trois places. Je pense d'une cuisine de restaurant, d'une salle de chirurgie, des affaires comme ça, là, c'est pas mal compréhensible.
Ouais. OK.
J'aimerais faire du pouce sur une chose qui a abordé, c'est Ben, finalement, c'est le crédit d'impôt pour personnes handicapées. C'est ça, au c'est fédéral.
La personne qui est diabétique ou peu importe, elle, faut-tu qu'elle vende sa salade à l'impôt, au gouvernement, justement, pour avoir accès à ce crédit?
Ben, c'est pas au gouvernement qui a à vendre sa salade, c'est à son médecin.
OK.
Donc, tu dois faire compléter un formulaire. Bon, ça peut être d'autres personnes que des médecins, là, puis, mais ça dépend des conditions. Probablement que pour le diabète, c'est juste un médecin, mais si tu as des problèmes de mobilité, ça peut être un ergothérapeute, un physiothérapeute, là, bon, peu importe. On sait qu'au Québec, ce crédit d'impôt-là est beaucoup moins demandé. Puis ça a un impact fort important. C'est que ce crédit d'impôt-là, c'est la base pour plein d'autres services crédits. Par exemple, le régime d'épargne et études invalidité. Oui. Donc, si tu n'as pas le crédit d'impôt, ben, tu ne peux pas avoir accès au régime.
Ah. Puis les gens ne demandent pas parce qu'ils ne savent pas que ça existe?
Il y a une méconnaissance. Puis il y a la perception de ben moi je suis pas handicapé. Je demande pas le crédit de personne handicapée. Je suis pas handicapé. Hein? J'ai le diabète, pas handicapé.
Mais ça, c'est pas juste crédit d'impôt. Hein,
non, non, non. C'est, même pour le travail.
Oh, oui.
Il y a un sondage, c'est pas un sondage, une enquête canadienne là, à toutes les X années pour déclarer. Puis tu peux déclarer si tu es... t'as des incapacités ou pas. Il y a 16 % de la population québécoise qui se déclare avoir des incapacités. Ben, j'ai bel et bien dit qu'ils se déclarent, mais il y en a plein qui ne se déclarent pas. Là.
C'est ça.
Puis là, je vais te donner un exemple. Il y a plein de personnes âgées qui sont sourdes, qui auraient besoin d'un appareil, mais moi, je ne suis pas sourd. Puis ça, tout le monde en connaît. Là.
Ouais, puis,
des grands-papas et des grands-mamans.
Tu parles de dos, puis ils ne t'entendent pas.
Tu y parles de face, puis ils ne t'entendent pas.
Ah, ça m'entend pas.
Il y a beaucoup de fierté là-dedans. Là.
Oui, oui. Oh, oui. Il y a de la fierté là-dedans.
Il y a de l'acceptation aussi.
Oui.
Ouais.
Accepter soi-même, dans le sens que les autres doivent accepter le fait que, bon, j'ai un collègue, par exemple, handicapé, mais à la base, il faut que cette personne-là s'accepte elle-même ou s'accepte sa situation.
Oui, oui, c'est ça.
Est-ce que la personne qui a un handicap, puis je ne veux pas non plus me faire lancer des tomates, mais on parlait tout à l'heure de, du fait, est-ce qu'on le dit ou est-ce qu'on le dit pas, est-ce que la personne qui a un handicap, qu'il soit visible ou invisible, devient... si on veut, le meilleur porte-parole de la situation, si on veut la faire connaître. Mais en même temps, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des gens qui ne veulent pas en parler, puis c'est bien correct, puis on respecte le choix de cette personne-là de ne pas en parler. Mais est-ce que cette personne-là ne se fait pas le meilleur porte-parole, le meilleur ambassadeur, justement, de l'accessibilité du genre? Écoute, je suis en fauteuil roulant, vous le voyez, ou j'ai une difficulté d'audition. Entrer dans un restaurant, écoutez, si vous pouvez m'aider à faire ça, tu sais, de rendre la situation plus accessible aux yeux de la personne qui le vit puis qui n'est peut-être pas à l'aise d'interagir avec une personne avec un handicap. Comprenez-vous ce que je veux dire?
J'aimerais débuter. Première chose, notre équipe de recherche, c'est un peu ça la philosophie. On veut travailler avec les principaux intéressés parce que, un, c'est eux qui connaissent les problèmes. Puis c'est probablement eux qui connaissent les solutions. Ouais. Nous, on peut juste les aider à, je vais dire, packager ça, mettre une couche de recherche pour qu'ils puissent aller revendiquer. Nous, on ne revendique rien, mais on produit du matériel qui démontre qu'il y a des situations problématiques ou qu'il y a des solutions.
Ouais.
Hein, voici une solution qui marche, on pourrait l'implanter. Et pour répondre plus spécifiquement à ta question, ben moi, je le crois que dans la vie de tous les jours, c'est les individus eux-mêmes qui sont les meilleurs porte-parole. Mais il y en a qui souhaitent moins mettre en valeur. Et moi, j'ai un fils qui est sourd d'une oreille, puis il n'aime pas tant en parler.
Okay.
Puis, ben, c'est comme ça. Mais quand tu es en fauteuil, ben là, c'est plus difficile à cacher.
Ouais, c'est sûr. Parce que c'est un peu évident, là, mais tu vois, nous autres, chez Kyrole, quand on fait nos formations, c'est toujours le pour et par. Donc, on exige là, que ce soit. On veut que ce soit deux personnes avec deux types de handicaps différents. Donc, souvent, on fait fauteuil handicap moteur, handicap visuel. Mais des fois, moi, j'ai donné des formations depuis 2018, puis. On est nous deux à donner la formation, puis à un moment donné, on vient à parler de déficience intellectuelle ou autiste. Puis c'est pas parce que je suis en fauteuil roulant que je connais tout ce qui a rapport à l'autisme. C'est pas parce que tu as un handicap que tu connais tout. Puis moi, en tout cas, quand je suis arrivé dans le communautaire, parce que j'étais un ancien fonctionnaire, quand je suis arrivé dans le communautaire, c'est ça qui m'a frappé un peu. Ben, crime, je connais pas tous les handicaps, puis ça dépend de ton réflexe. Est-ce que tu dis, OK, ben moi, je vais me spécialiser dans un type d'handicap, ou, dans le fond, je suis curieux. Moi, je suis plus curieux, dans le fond. Fait que je me suis fait des amis qui aveugles, puis des personnes sourdes, puis... Puis j'en ai appris pas mal là-dessus. Donc, quand on arrive pour donner une formation, ben si c'est comme... Parce que ça dépend c'est quoi qu'ils demandent comme formation. Je vous donnerai un exemple. À l'aéroport de Montréal, ils nous ont demandé des formations, mais beaucoup en déficience auditive. Parce que leur système téléphonique, tout ce qui avait rapport à ça, ils n'étaient pas capables de donner le service. Tandis qu'en fauteuil moteur ou en... déficience visuelle, ben ça faisait une couple d'années qu'ils étaient capables. Bon, il y avait déjà des formations, mais de ce côté-là, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, là, il a fallu trouver des formateurs pour le langage des signes. C'est ça, langage des signes? Oui, langage des signes, je ne veux pas me tromper. Puis là, ben, en tout cas, on va voir si c'est quelque chose qu'on veut améliorer là, dans les prochaines années. Mais c'est pour ça qu'on dit que l'accessibilité, c'est large. Mm-hmm. Des fois, c'est l'accessibilité physique des lieux. Mais des fois, c'est vraiment le personnel, comment tu te comportes avec c'est les ça. Gens.
On parlait aussi de technologie quand on a abordé le sujet des quadriporteurs. C'est quoi les autres technologies qui sont existantes justement pour aider à l'accessibilité?
Bien, tu sais, comme la RAMQ, dans le fond, il était vraiment stické sur le fauteuil roulant, fauteuil motorisé. Je pense, tu sais, comme tout ce qui est canne, déambulateur. Mais, tu sais, dans le fond, vient un moment, quand tu es une personne en fauteuil manuel, si ton handicap, il devient, ben, il régresse, ou comment on dit ça?
Ouais,
il devient
il pire,
mettons. Il devient pire.
Oui, il dégénère. Ben,
oui, il dégénère, exactement. Ça, je cherchais. Fait que dans le fond, quand il dégénère, à un moment donné, il vient que tu vas passer en fauteuil motorisé. Mais, tu sais, moi, je me dis... Puis en fauteuil motorisé, là, moi, je parle beaucoup d'argent, là, mais c'est 30 000 piastres au moins.
OK.
Puis un fauteuil manuel comme le mien, c'est à peu près 3 200, 3 500. Fait que je me disais, crème, il doit y avoir un entre les deux, là. Ça se peut pas que... Puis là, est venu, là, il y a des gens qui ont un fauteuil manuel, mais avec des roues automatiques. Donc, à chaque fois que tu donnes un coup de roue, c'est comme si tu en donnais quatre.
Comme une assistance.
Ah, c'est comme les vélos
c'est ça, assistance électrique.
Mais ouais, la RAMQ ne payait pas ça.
OK.
Donc, moi, j'avais un de mes amis qui avait été aux États-Unis à s'en acheter. Ça avait coûté 4 000 la roue.
La roue.
Oui. Puis, parce que c'est quand même...
Incluant la technologie.
Oui, oh, ouais, c'est ça. Mais c'est une business, le handicap aussi. Il ne faut pas oublier ça. Donc, moi, j'en ai une présentement ici. Là. J'ai mon fauteuil manuel. Puis j'ai une petite roue automatisée en arrière. Moi, je dis tout le temps pour rire, il me plaque ça dans le derrière. Là. Fait, que là, fait que dans le fond, tu l'accroches après le fauteuil. Puis j'ai une petite manivelle à côté ici. Puis je peux choisir la vitesse que je veux aller. Donc, je vais au parc avec mon garçon. Lui, il est en vélo. Ben tu sais, en fauteuil manuel, à moins que je sois Chantal Petitclerc, je ne vais pas le suivre. Mais avec ça, je suis capable de le suivre jusqu'à 10 km/h. Fait que ça m'aide beaucoup.
Oui.
Puis c'est un petit bidule qui coûte 3 ou 4 000 $ Donc, si tu calcules le fauteuil plus ta petite bidule, ça revient quand même moins cher qu'un fauteuil manuel, motorisé. Puis, la personne peut garder un certain type d'autonomie. Donc, elle peut travailler encore ses bras, elle peut faire de l'exercice. Fait que c'est quand même gagnant-gagnant. Puis, il y en a plein d'aides techniques comme ça. Sauf qu'il faut que la RAMQ, ça ait quand même assez ouvert.
Actuellement, la RAMQ ne le rembourse pas. Toi, tu l'as payé?
Non.
Ils ont accepté?
J'ai fait partie du projet pilote.
OK. C'est bien.
Puis là, présentement, là, les ergos, bien, dans le fond, c'est une autre affaire, mais ils ont de la paperasse à faire. Puis il faut qu'ils prouvent ça. Puis que... Mais je trouve que...
C'est des demandes de considération spéciale pour un ergothérapeute. Puis ça demande beaucoup de temps d'expliquer que la personne va réaliser des habitudes de vie avec ça et que tout le monde est gagnant, là.
Mais moi, mon ergothérapeute, en tout cas, elle est proactive là-dessus, là. Fait que c'est elle qui me l'a proposé, c'est même pas moi qui y a pensé. Fait que ça, c'est une bonne idée, je serais prêt à l'essayer. Mais aussi, c'est pas fait pour tout le monde. Parce que moi, mon fauteuil, ben dans le fond, ma petite roue, là, ça pousse.
Oui.
Fait que si je pogne une bonne craque de trottoir, ben une petite démarcation de... ben je suis mieux de savoir l'utiliser parce que je vais me ramasser sur le ventre ou des choses comme ça. Fait qu'on ne veut pas non plus donner ou prescrire des choses à des gens qui vont se blesser. Non.
Je comprends.
Donc, tu sais, il y a toute une question d'adaptation à la nouvelle technologie là-dessus. Puis tout ce qui est aussi commande vocale ou pour les personnes en déficience visuelle, là, le système JAWS, dans le fond, que tu reçois un Word ou quelque chose comme informatique, puis ça lit tout pour eux autres. Puis je ne sais pas si vous avez déjà
entendu. Sur leur téléphone.
Puis ça lit vite. Moi, ça m'étourdit bien.
Ah oui? Vite, je connais pas ça du tout.
Bien, dans le fond, c'est que tu reçois un document, puis il te lit. C'est comme un curseur qui te lit comme ça.
Ah, OK, oui, oui, je comprends.
Mais à vitesse grand V, là. Fait que tu les entends. C'est comme, voyons donc. Bon, les autres sont habitués.
Pour
rester
concentré.
Même pour les courriels. Là, ouais. René, ouais. Il prend tous ses courriels.
Ouais.
Là, il est une personne aveugle avec qui on collabore, là, mais il reçoit ses courriels comme toi puis moi, là.
Puis, puisque je vous...
ça n'existait pas il y a 20 ans.
C'est ça. Et puis, si on jase de solutions ou de visibilité, justement, de l'accessibilité, tu sais, des fois, il y a des... c'est peut-être pas le bon terme, mais puisque je vis dans les médias, c'est mon métier d'être animatrice à la radio, il y a des causes qui deviennent sexy, il y a des causes qui deviennent à la mode parce qu'il y a un porte-parole vedette québécoise, par exemple, qui décide d'endosser tout ça, grosse campagne publicitaire à la télé, à la radio. C'est-tu quelque chose qui a déjà été fait ou qui va se faire ou qui fait en sorte que est-ce que la cause est sexy? Comprenez-vous mon point?
Ben, ce qui est sexy, c'est... je ne sais pas si je vais dire ça. Ah oui, je vais le dire. ce qui est sexy, c'est aider les enfants malades.
Oui.
Ça,
oui,
là, c'est ça. Là. Opération
le
enfant soleil,
cancer
du sein.
Ouais.
Ça, c'est sexy. Mais aussitôt que un enfant devient un adulte handicapé, ben ça, c'est moins sexy. Fait que passer 18 ans, 21 ans, là, au début, là, moi, j'ai fait rêve d'enfant, les gros trucs comme ça. Mais à 21 ans...
on t'a pu appeler?
Non. c'est tranquille, là. J'attends toujours mon appel.
C'est
mais ouais, c'est ça, tu sais, c'est moins sexy. Fait que là, on parle, ben si t'es pas content, achète-toi là. Ou, tu sais, c'est plus à ce niveau-là. Fait que aller à Walt Disney, là, ça, c'est accessible au coton, là. Parce qu'il y a plein d'enfants qui sont en situation d'handicap qui vont. Puis, mais si tu décides d'aller d'un tout inclus au Mexique, ben, tu sais, les autres, ils ont pour leur dire souvent aussi, dans cette mentalité, ben, les personnes handicapées, ils n'ont pas d'argent. Fait qu'ils ne viendront pas de toute façon.
Ah, ben oui, c'est sûr, tout le monde sait ça, que les personnes handicapées n'ont pas d'argent.
Ben, c'est sûr que si tu as 8 marches pour rentrer dans ton hôtel avec juste du sable, pas rien, pas tout, ben, il n'y en aura pas. C'est pas nécessairement qu'ils n'ont pas d'argent, c'est qu'ils ne peuvent pas y aller.
Ben non, c'est ça, exact.
Mmh. Fait que c'est une autre forme d'accessibilité, là.
Puis, mettons, dans un avenir futur, dans votre idéal, qu'est-ce que vous voyez, justement, pour l'avenir en termes d'accessibilité?
Ben, tu vois... Il y a un gars qui s'appelait Jérémy... Ah, je ne me rappelle pas de son nom de famille. Lui, il est devenu quadriplégique suite à un accident. Puis, il y a une affaire comme... au Québec, il y a un programme qui s'appelle le programme PAD. C'est le programme adaptation de domicile. Donc, le gouvernement te donne de l'argent pour rendre ton domicile accessible. Puis, depuis 1992, là, ils l'ont changé dernièrement, mais depuis 1992 à l'année dernière, ils donnaient 16 000 $ Donc, c'était 16 000 $ pour faire adapter ta maison. Puis, si ça coûte plus cher, ben organise-toi. Donc,
bon, mais 16 000 $ la dernière année, c'était pas mal juste mettre une pente devant la maison.
Dire,
ça baisse pas les trottoirs, pas les trottoirs, mais les comptoirs. Ça n'adapte pas la salle de bain.
Mais 16 000 $
tu mets tout dans la salle de bain.
C'était différent qu'aujourd'hui.
Bien, c'est ça que j'allais dire, parce qu'aujourd'hui, 16 000 $ on va pas loin, là.
Non. Fait que dans le fond, tu avais ça. Puis, je vais donner un exemple. J'ai fait mettre une salle de bain accessible dans mon sol, puis ça prenait une plateforme pour descendre. Bien, ils m'ont donné 16 000 $ mais ça m'en a coûté 47. Par contre, un petit détour de même, si j'étais un blessé médulaire et c'était la SAC qui me payait ça, bien, la SAC paye tout.
OK.
Fait que dans le fond, il y a déjà une différence entre les personnes handicapées de naissance puis les personnes SAC.
Déjà.
Je ferme ma parenthèse.
Au Québec, il y a différents programmes,
oui.
Là, hein, puis...
Ouais.
Il y a un peu d'iniquité, là, ici.
Ouais. Puis, c'est-tu... Bon, oui, de l'iniquité, je vous entends, puis je l'entends, là. puis je me retiens, mais comme je vous dis, ça me touche. Mais est-ce qu'il y a des programmes qui seraient à revoir, selon vous, justement, que c'est un peu plus archaïque, puis que, justement, 92, c'est pas 2023, là, y aurait-tu des moyens de revoir certains, certains programmes?
De revoir les montants annuellement, pas attendre
non, c'est ça. Non, non.
30 ans, là.
Mais là, ils l'ont fait à 50 000, fait que...
Le même 16 000 est rendu à 50 000. Oui, okay.
Ouais, okay. Un gros.
Ben oui, ils ont entendu que je fasse mes travaux, ah, m'en dette, ben puis après, ils l'ont fait.
Ben oui.
Mais c'est pas grave. Ça fait partie de la game. Fait que la prochaine fois que je vais me faire une cuisine, ah, ben là, je vais me gâter.
Ben oui, ben absolument.
Non, c'est pas vrai. Mais oui, ces programmes-là devraient être revus, c'est sûr. Mais aussi, souvent, les programmes, c'est qu'ils sont méconnus.
Mm-hmm.
Puis, mettons que c'est un employeur qui va engager une personne handicapée. Puis, qu'il y a des, ça s'appelle des CIT, c'est des contrats d'intégration au travail. Donc, le gouvernement paye une partie du... il va pallier, dans le fond, le salaire de l'employé. Jusqu'à 40 % des fois, ça peut aller plus. Mais, tu sais, pour un employeur, là, il remplit ce formulaire-là qui est super long. Après, il faut qu'il aille voir un médecin. Puis après ça, ben il fait sa demande. Puis dans un an, peut-être, il va avoir une réponse.
OK.
Fait que s'il cherche un employé tout de suite, ben ils vont tout passer à côté de la game, là. Fait que c'est tout, l'intégration au travail, là, c'est primordial. Ça, ils font rien pour ça, je comprends pas. Là.
Puis tantôt, bon, je ne l'ai pas mentionné, mais nous, on a fait certains projets pour aider à amener au travail, là, par exemple, des gens qui avaient une déficience intellectuelle, mm-hmm. et l'autisme aussi. Là. Donc, des programmes qui soutenaient l'employeur sur comment recevoir... ces gens-là qui ont ces caractéristiques-là, ouais. Et aussi pour les personnes autistes et déficiences intellectuelles, pour les préparer à l'arrivée au travail. Simon l'a mentionné au début du balado, là, l'accessibilité, c'est plusieurs choses. Hein. C'est pas juste avoir une pente à l'entrée du commerce, c'est d'être capable de te rendre au commerce. Oui, bon, tu sais, là, on a parlé du transport adapté. Au Québec, il y a eu beaucoup de changements dans le transport adapté récemment qui fait que la situation est un petit peu chaotique. Là. Tout le monde en est conscient. À Québec, si, il y a des mesures qui sont prises, mais pas suffisamment. Le transport adapté, c'est pas l'idéal. Hein. C'est à telle heure, oui. À telle heure.
Puis mais par contre, ça amène des avantages. Moi, je voyage avec mes amis, puis je planifie tout ce que je fais. Je vais au restaurant à telle heure, je fais ça, puis ils me trouvent fou, je sais pas, là. Tu sais, t'es bien trop organisé, là. Nous autres, on veut un peu de latitude. Ben, moi, je suis habitué comme ça, donc je le fais comme ça, puis souvent, ça marche. Parce que, dans le fond, ben, t'as réservé au restaurant qu'il fallait, non? Ça prend 2 semaines de réservation d'avance. Ben, moi, j'y ai pensé, mais les autres, c'est pas grave, on va aller à l'autre à la place. Là. Mais moi, des fois, c'est lui qui est accessible, puis l'autre, il l'est
exact.
Pas.
Exact.
Fait que.
Autant mieux planifier pour s'assurer d'avoir.
Ben, ça, c'est la gestion d'anxiété là-dedans. Tu sais, l'handicap, ça procure aussi une certaine forme. La minute que tu sors de chez vous, tu le sais pas, là, tu sais, qu'est-ce qui peut t'arriver. Oui. Fait que, tu sais, on parlait au RTC l'année dernière, puis ils mettaient de plus en plus d'autobus de ville réguliers accessibles, puis d'arrêts accessibles. Mais il faut toujours bien se rendre à l'arrêt. Mm-hmm. Fait que c'est ça qui est la difficulté. Donc, en plein hiver, je vais pas me lâcher lousse là-dedans. Mm-hmm. Puis, en festival d'été, mettons, je pars de chez nous, puis je rentre dans l'autobus accessible, puis c'est plein.
Mm-hmm.
Fait que j'attends la prochaine.
C'est ou plein parce que plein. C'est pas juste un autobus accessible ou parce que
non,
c'est...
Non, mais
elle est accessible, mais pleine de monde.
C'est ça. Ouais. Ou parce qu'il y a une place de personnes handicapées. Ou il y a déjà une personne handicapée, ouais. Là. Fait qu'il faut que j'attende la prochaine. Mais ben, au mois de janvier, je vais pas me risquer ça.
Non, je comprends tout à fait.
Fait que c'est faut que tu diminues ton anxiété au maximum, puis pour vouloir... avoir du plaisir à sortir, je veux dire, à un moment donné, sinon tu vas rester chez eux, chez vous, là. Fait que c'est un peu ça, tu sais, puis là, tu vas t'isoler, puis bon, c'est une roue qui tourne. Là, je fais du coq à l'âne, mais le télétravail a changé beaucoup de choses, par exemple.
Bien, je m'en allais là, justement, et ça doit aider, ça,
je sais, le télétravail. J'ai lu tes notes, non, c'est pas vrai.
Ah, je l'ai même pas écrit.
C'est vrai.
Non, mais ça doit aider, justement, tu sais, en plein mois de janvier, pour aller prendre le transport adapté, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez un travail à faire aussi, puis vous voulez pas non plus que avoir l'impression que votre employeur est toujours en mode « bon, j'accepte » et tout ça, tu sais. Je comprends que nous aussi, tu sais, vous voulez faire votre travail comme il faut. Fait que c'est ça, le télétravail a-tu...
Oui, bien, on avait une réunion avec la Ville de Québec qui ont... ça s'appelle... on l'a-tu dit tantôt, la TCAU? Non, hein?
Ah, ça me dirait.
La TCAU, c'est la table de concertation accessibilité universelle de la Ville de Québec. Fait qu'il y a tous les acteurs de l'accessibilité qui sont autour de la table. Puis, j'avais demandé un transport pour arriver à cette réunion-là à 9h. Et il y avait des élus de la Ville. Puis, ils sont venus me chercher chez nous à 9h30. Donc, tu sais, il y a des réunions que tu peux... Ouais, c'est ça. Mais au moins, ils vont le voir, là, que ça marche pas, cette affaire-là.
Fait... finalement, c'est parfait.
Ouais. C'était stagé. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, il y a beaucoup de réunions que tu peux faire en télétravail maintenant. Fait que tu sais, des fois, puis c'est pour tout le monde aussi, là.
Oui.
Tu peux te taper 4 réunions d'une journée parce que tu es en télétravail. Fait que ça fonctionne comme... Moi, l'entreprise qui roule pour laquelle je travaille, on a ouvert un bureau à Québec à cause du télétravail. Parce que dans le fond, sinon, les bureaux étaient juste à Montréal. Mais là, en tant qu'organisme provincial, ben, on peut s'élargir à ce niveau-là. Donc, moi, je peux travailler de Québec pour eux à Montréal. Puis, je monte à Montréal une fois par mois. Puis, voilà, ça s'organise, là, dans le fond. Fait que là, présentement, je travaille avec la Ville de Montréal pour la rendre accessible, mais je suis à Québec.
Simon, je veux qu'on parle encore de vous. C'est plate, hein? Vous êtes devant moi, puis je suis curieuse, fait que j'ai plein de questions. C'est écrit dans mon document de recherche que vous êtes père de famille. Bon, déjà là, d'être à mobilité réduite, ça doit être un défi en soi. Quand on devient parent, comment ça se passe?
Bien, la première affaire aussi à vérifier, c'est que moi, j'ai une maladie génétique.
Oui.
Puis, j'accepte très bien mon handicap, puis je vis très bien avec. Par contre, je ne tiens pas nécessairement à ce qu'une autre personne, dont mon enfant, ait cette maladie-là. Mm-hmm. Donc, on a fait quand même des tests génétiques. Moi, ma copine, parce que j'aime beaucoup les défis, là, ma copine est immigrante.
OK.
Donc, ma copine, elle a immigré ici en 2001. Elle est italo-belge. Et avec ses parents et tout, donc on s'est rencontrés en 2006. Puis, on sait beaucoup que le gène, c'est sectoriel.
OK, c'est-à-dire?
Moi, je le sais.
Ça veut dire quoi, sectoriel?
Ça veut dire, comme, mettons, au Saguenay.
Je sais
pas le nom de la maladie, là, mais...
Il y a des dystrophies particulières au Saguenay.
Oui. Puis, moi, ma maladie, il y a beaucoup ça dans le Bas-Saint-Laurent, puis, et dans le nord de la France.
OK.
Donc, ça vient du nord de la France. Donc, ma copine, donc, ses parents sont italiens, donc elle n'avait pas ce défaut-là. La généticienne nous expliquait qu'on a tous porteurs de 5 gènes défectueux, mais OK, j'en sais un.
Et puis, elle, sa condition, c'est?
Ma blonde est infirmière à l'enfant Jésus, donc...
mais elle n'a pas de mobilité réduite ou quoi que ce soit?
Pas du tout.
OK, parfait.
Pas du tout.
Super.
Puis, elle non plus, là, je veux dire, je dis pas qu'elle s'occupe de moi, oui, mais c'est pas ma préposée non plus. Mais elle voulait pas nécessairement non plus avoir... je veux dire, il n'y a personne qui lève le flag qui veut ça, là. C'est pas ça que je veux dire, mais on veut faire attention. Quand ma copine étant infirmière elle-même, on est... je veux dire, on a accouché au CHUL, à Québec. Puis, dans le fond, ma copine, elle elle a eu un petit problème à l'accouchement. Donc, elle pouvait pas se lever pour s'occuper du bébé, le soir même. Donc, il l'avait mis dans un espèce de bac, là, transparent. Là.
Oui.
Je sais pas comment appeler ça, là. Un panier.
Un bac à fruits. Non, mais je l'ai déjà entendu l'expression, mais j'allais dire incubateur, mais c'est pas ça, c'est pas un incubateur, parce que ça, c'est pour les prématurés, là. Mais
on voit l'image,
le visualise, là. Oui, c'est ça.
Il m'arrêtait par-dessus la tête. Donc, moi, je pouvais pas l'atteindre.
Même, tu avais de la misère à le voir.
Je le voyais que c'était transparent. Fait que, mais je pouvais pas l'atteindre. Puis, donc, il y avait pas d'équipement accessible pour un parent en situation de handicap. Puis ma copine, elle ne pouvait pas se lever. Donc, l'infirmière qui était avec nous au début passe la soirée avec nous. Puis ce qui est arrivé, c'est que quand il y a eu le changement de chiffre à 11 heures, la nouvelle infirmière, super pas sensibilisée, rentre puis dit « Bon, le bébé, il pourra pas rester avec vous pour la nuit. » Fait que là, parce que dans le fond, on pouvait pas... Puis j'ai dit, OK, mais il n'y a pas une autre. Il n'y a pas quelque chose, une solution qu'on peut trouver. C'est non, c'est direct.
Parce que si, mettons, le bac avait été à vos, à votre hauteur, vous auriez pu le prendre, le bébé.
Exact.
Juste ça.
Oui, juste ça.
Donc, la solution, c'était de trouver une table plus basse.
Ben c'est ça.
C'est sûr, mais là, c'était pas le temps. Ça a l'air qu'il n'y avait pas le temps de trouver une solution. Mais tu sais, là, l'infirmière sort. Fait que là, ma blonde a pleuré sa vie. Fait que là, bon, mon premier rôle de père, ça commence sec, mais c'est ça, tu sais. Fait que là, je m'en vais au comptoir des infirmières, mais le comptoir est bien sûr trop haut. Fait qu'ils ne me voient pas, j'attends 10 minutes. Fait que je décide de rentrer dans le comptoir des infirmières. Puis là, j'explique ça. Fait qu'on me demande de sortir, je ne sortirai pas. Vous n'allez pas me voir. Fait que, bon. Fait que je rentre là-dedans. On discute. Puis là, il y a une infirmière là-dedans qui réagit, qui fait « Mais ça n'a quand même pas de bon sens. Juste parce qu'on n'a pas l'équipement, on peut pas faire ça. Ça marchera pas, là. » Fait que là, s'ensuit un débat. Là, j'ai sorti, par exemple. Là, s'ensuit un débat. Puis, 5 minutes plus tard, il y a un infirmière qui est rentré. Puis, ben dans le fond, on a juste pris le bac. Je fais des guillemets avec mes doigts. Ouais. Le bac, puis on l'a mis dans le lit à ma blonde. Il y a des rebords, tout ça.
Oui.
Donc, c'est quand même assez simple.
Dans le fait, ben oui, c'est ça, dans le fait.
Pour ça, je disais, il fallait juste trouver un support plus bas.
Exactement. Fait que, ben dans le fond, il y a peut-être une méconnaissance, puis là, on parle du personnel hospitalier aussi, là. Donc, une méconnaissance, une formation, quelque chose, là, puis ça, je peux pas croire que je vais être la dernière personne avec un handicap qui va avoir un enfant, là. Ça devrait arriver dans les prochaines années aussi. Donc, j'avais un sac ventral, ça m'a aidé beaucoup parce que je pouvais pousser mon fauteuil en même temps que d'avoir mon enfant sur moi. Puis quand il est petit, c'était bien. Mais quand il a passé l'âge de 8 mois, là, je commençais à plus être capable de le prendre. Fait que là, ça devenait un autre problème, puis tout ça. Puis, mais tu sais, il y a eu des situations où c'était facile, d'autres c'était plus difficile. Il a commencé à marcher en grimpant sur ma chaise. Mais regarde, il est tellement à l'aise avec ma chaise que hier j'étais assis sur le fauteuil, puis il est embarqué dans ma chaise, puis il est parti avec. Sauf que là, moi, j'avais plus de fauteuil.
Non, c'est ça.
Fait que là, j'étais comme pogné. Fait que il y a des bons puis des mauvais côtés. Oui. Mais il y a
des. Fait
bons.
Des mauvaises blagues, là, des fois. Là.
Pour lui, c'est même pas une blague. C'est comme. L'autre jour, je suis allé à son pique-nique vendredi dernier pour la fin de la maternelle. Donc, on a fait ça dans un parc, puis il y avait tous les enfants, puis les amis, puis. Puis il est arrivé, parce qu'il est très expressif, là, un peu trop. Puis il dit « Ah, regarde, c'est lui mon père, l'handicapé, là, qui me barre. » Puis il disait ça à tout le monde, mais tu sais, pas méchamment, mais fièrement. Ben, il était fier. C'est juste qu'il utilisait des termes
assez rough.
C'est cru. Puis,
c'est les autres parents qui devaient...
Oui, exactement. Même la prof, là. Oui, c'est bon, Lorenzo, on a compris.
On l'avait
compris. Parce que les autres enfants, ils ne devaient même pas s'en rendre compte, mais c'est ça, c'est plus
au niveau
des adultes.
Non, mais là, je me suis ramassé avec une ceinture d'enfants autour de moi, puis un paquet de questions, là.
Est-ce que vous êtes à l'aise de répondre justement à des enfants qui sont curieux puis qui, tu sais, qui veulent juste en apprendre plus?
Ben, moi, ça me dérange pas. Je le dis. Ben, ça dépend, là. Je veux dire, si je suis au parc à 7h15 le matin avec mon garçon puis je suis poqué puis j'ai un café dans les mains, là, ça me tente peut-être pas. Pas tout le temps. Mais, tu sais, je veux pas envoyer un enfant
promener
ben parce que ça me tente pas. Bien, parce que je suis de même, mais il y en a d'autres que peut-être que oui. Puis c'est la même affaire pour si tu veux aider une personne handicapée, il y en a d'autres qui vont dire oh, oui, mais il y en a d'autres que touche-moi pas, je veux savoir. Fait que c'est un peu la même situation. Mais moi, dans le fond, dans mon quartier, il y a plusieurs enfants qui ont grandi avec moi puis qui me connaissent. Donc, les dernières fois que ça m'est arrivé, des ceintures d'enfants avec des questions, bien, dans le fond, ces petits-enfants-là viennent, sans que je leur demande, me défendre. Oh. Alors, laissez-le tranquille, là. Il n'y a pas le goût de vous parler de ça. Demandez-nous-le, on va vous le dire, nous autres.
Ça devient comme des espèces de gardiens.
Ouais, c'est quand même
c'est bien cute. Puis au niveau du transport, parce que là, ce que je comprends, c'est que vous ne conduisez pas.
Non, pas moi.
Est-ce que votre conjointe conduit? Avez-vous un véhicule, dans le fond?
Oui, bien, moi, je suis quand même chanceux. Je suis quand même de me transférer d'un auto, là.
Oui.
Donc, nous autres, on a... Un petit auto là, qu'on peut se transférer, que je peux me transporter.
Pour transporter votre enfant, c'est ça, souvent c'est l'auto.
Ben, c'est toujours ça.
L'amenez-vous des fois avec vous en transport adapté?
Ben, je pourrais, mais là, il est comme à la limite là, d'un banc d'auto, pas de banc d'auto. Fait que pas de banc d'auto, je pourrais. Avec un banc d'auto, oui, mais des fois c'est compliqué, puis il faut que le chauffeur l'attache. Puis dans le fond, nous autres, on a quand même acheté notre maison. On a une école qu'on peut se rendre à pied. Ouais. Fait que, tu sais, il n'y a pas l'aspect de véhicule pour se déplacer pour toutes ces raisons-là. Par contre, là, de la minute qu'on veut sortir de notre quartier, c'est sûr que ça prend l'auto. Je lui ai fait faire une promenade en bus RTC.
Oui.
Puis, il n'a pas aimé.
Ah!
Il n'a pas aimé parce que, pour des raisons, juste, il n'aime pas les gros bruits, les gros sons. Puis, il n'y a pas de diagnostic là, pour l'instant là-dessus. Là,
non, mais, non.
Ça,
ouais. Mais il n'aime pas sensible, ça. C'est ça.
Oui, c'est ça. Il n'aime pas bien ça. Fait qu'on continue à y aller avec l'auto, puis ça va super bien là, à ce niveau-là. Mais on pourrait avoir une communauté aussi. Là. On n'est pas.
Mm-hmm.
On choisit nos.
Mais tu n'as pas besoin d'un véhicule adapté. Là. C'est ça aussi.
Bien, pas pour l'instant. Par contre, là, la journée que. Je vais peut-être avoir besoin d'un fauteuil motorisé. Là, il faut leur penser à toutes ces situations-là, bien sûr.
Et la parentalité, un beau cadeau dans votre vie?
Très beau. C'est le plus beau cadeau. C'est pas toujours facile, mais on les aime, ces petites bêtes-là. Là. Mm-hmm. Mais j'ai les mêmes enjeux avec ma conjointe que tous les conjoints et conjointes du Québec et du monde. Donc, C'est de faire les tâches comme il faut. Par contre, il y a certaines tâches que je peux pas faire. C'est plus difficile. Donc, des fois, ça donne une charge mentale puis une charge physique un petit peu plus là, à ma conjointe qui prend le rôle haut la main. Par contre, elle est quand même aussi infirmière. L'infirmière, c'est quand même un métier exigeant. Oui.
Mm-hmm.
Donc, j'essaie de pallier le plus possible. Tu sais, c'est comme donner le bain. Des fois, donner le bain, faut que tu trouves des trucs.
Mm-hmm.
Faut que tu trouves des trucs parce que sinon, ben c'est trop facile de dire oh, « je suis pas capable de le faire » puis je laisse faire ça. Fait que c'est pour ça que je parlais tantôt de ma petite roue automatique. Juste d'aller dehors avec mon garçon puis pouvoir le suivre partout, ça, c'est un gros plus. Là,
ça change une vie, en fait. Là. Ça fait toute la différence.
Oui, c'est sûr parce que... Avant ça, maintenant qu'il voulait aller au parc, on ne le laisse pas envoyer au parc tout seul. Là. Donc, avant ça, ben il fallait demander, je demande à ma conjointe ou qui demande à ma conjointe, qui a fait maintenant le souper préparé, ben veux-tu aller au parc? Là, ça devenait trop. Fait que là, avec tout ça, ben au moins, ça m'aide à pouvoir prendre mon rôle là, plus à cœur, là, ou plus au sérieux maintenant.
Et pour terminer, je sais que vous anticipez l'anxiété et tout ça par rapport à la question finale, je blague, mais on est déjà rendu, malheureusement, à notre... parce que je trouve notre discussion complètement palpitante. Si vous aviez à prendre rendez-vous, parce que le balado s'intitule « Santé sans rendez-vous », si vous aviez à prendre rendez-vous avec n'importe qui, n'importe quelle personne morte ou vivante, personnage fictif ou réel, ce serait qui et pourquoi?
Ben, moi, ce serait Stephen Hawking, le physicien qui est décédé il y a quelques années, qui lui-même avait des incapacités importantes. J'aurais aimé ça l'entendre parler de sa vie, les difficultés qu'il a eues en raison de ses incapacités, comment il a dealé avec ça, comment il voit lui-même l'accessibilité à la ville, à l'éducation, etc. Là. Oui, ça aurait été quelqu'un avec qui j'aurais aimé jaser de tout ça.
J'y avais pensé hier, puis je voulais dire Leonardo da Vinci.
OK.
Je trouvais que ça faisait prétention un peu, là, mais à cause que, dans le fond, tu sais, tout le ce qu'il a inventé, puis j'aimerais ça y parler du handicap. Fait que si on recule de 500 ans, puis on y parle déjà de l'activité et de l'handicap, bien peut-être qu'aujourd'hui, le vieux Québec, il serait accessible.
Ah.
Peut-être qu'on pourrait faire ça, mais la vraie personne que j'aimerais parler, c'est à moi, à 10 ans.
OK.
Et pourquoi 10 ans?
Parce qu'il n'a rien vu, Simon, à 10 ans, là, dans le fond. Là.
Mais il peut plus comprendre qu'à 5 ans, mettons?
Ben, 5 ans, ouais, non. Mon garçon, il a 6 ans et demi, puis... Mais mon garçon, il a 6 ans et demi, puis il sait c'est quoi l'accessibilité. Ben pas le mot, mais il comprend, tu sais. Comme, « Ah, je vais y aller pour toi, papa, tu peux pas y aller, il y a 6 marches. Mais tu vois, je te dirai pas que c'est super le fun. »
Okay. C'est donc bien drôle, ça. Fait que la personne à qui vous voudriez vous adresser, c'est vous-même, à l'âge de 10 ans.
Ouais.
Pourquoi?
Ben parce que je vais avoir beaucoup de défis à relever, puis certains défis que peut-être que je ferais pas la même chose. Puis, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, ben je pense que je pourrais très bien m'outiller pour faire une... Je veux pas dire une meilleure démarche, parce que je suis la personne que je suis parce que j'ai fait ce chemin-là. Mais par contre, je donnerais des trucs là, pour faciliter le tout. Puis que dans le fond, de ne pas se mettre tant de pression que ça parce que tu veux réussir puis tu veux que les gens ils te trouvent bon. Mais dans le fond, c'est juste toi là, qui dois aimer ce que tu fais. Là.
François Routier, Simon April, je vous remercie énormément pour cette belle rencontre. Honnêtement, j'aurais pu m'entretenir avec vous encore pendant super longtemps. C'est un sujet qui m'était plutôt inconnu et que je découvre. C'est impressionnant. Puis vous êtes tellement sympathique que ça rend la chose encore plus accessible pour ne pas faire un mauvais jeu de mots. Alors, merci beaucoup de votre présence.
Merci de l'invitation.